spirituel. La spiritualité. La spiritualité. Les médiums. Les médiums. La vie après la mort.
La vie après la mort.
Les auras.
Les auras.
Votre sixième sens.
Votre sixième sens.
La voyance.
La voyance.
Découvrez votre spiritualité avec Amy et Laurent.
Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans cette émission Enquête Spirituelle et même bonjour à ceux qui nous écoutent en podcast car il y en a beaucoup et de plus en plus, nouvelle émission ce soir. Bonsoir Amy.
Bonsoir Laurent, comment vas-tu?
Ah, super bien, aujourd'hui c'est une journée de bonnes nouvelles donc voilà, on n'en dira pas plus, c'est de la vie privée.
Tant
mais
mieux pour toi.
Voilà, c'est super ce soir. Émission donc Enquête Spirituelle, dans quelques instants on aura Marion pour la rubrique Coaching de Héros, j'espère qu'elle est là. Coucou Marion.
Oui coucou, je suis là, voilà, vous prend... m'entendez bien?
Ah, on oui, t'entend super parfait. Bien, on te prend direct maintenant, c'est hop,
génial.
On y va. Hein.
Ouais, tant mieux.
Ça sera dans un instant, tu vas nous parler de quoi?
On va parler d'écologie, on va continuer sur l'écologie, on va parler de permaculture.
Voilà, ce sera dans deux petites minutes, même pas. On va présenter notre invité de ce soir qui s'appelle Alexis Lambin, ou Alexis.
Alexis, c'est parfait. Donc, c'est un prénom grec et russe. Je ne suis ni grec ni russe.
Non, tu es bruxellois comme si.
Je suis bruxellois, voilà.
Et ce soir, tu vas nous parler des. Je sais pas, je sais pas si on dit les orbes, les orbes, les orbes.
On dit les orbes en général, on fait la liaison, mais bon. C'est plus joli.
Voilà.
Ce pas sera. Il n'y a pas vraiment de règles prédéfinies. Quoi.
Ah, ça, c'est le sujet de ce soir. Mais juste avant, on va passer avec la rubrique de Marion avec Coaching d'un héros.
Coaching d'un héros. Coaching d'un héros. Coaching d'un héros, la rubrique où le héros, c'est toi. Présenté par Marion.
Et voilà, c'est à toi, Marion.
Merci Laurent. Bonsoir à tous les auditeurs, bienvenue dans Coaching d'un héros numéro 20, la rubrique qui révèle en toi le héros dont le monde a besoin. Alors la semaine dernière, je vous ai expliqué à quel point consommer des produits bio, sans engrais ni pesticides, c'était vital pour éviter que la planète elle, se change en un désert géant qui ne peut plus abriter de vie. Ce soir, je vais aller encore plus loin et je vais vous parler d'une autre forme de culture, la permaculture. La permaculture, ça prend modèle sur les écosystèmes naturels pour la production alimentaire. En fait, elle se base sur ce que la nature a mis en place en termes de coévolution durant des millénaires. En fait, à l'état naturel, les plantes, elles poussent pas de manière individuelle et exclusive sur des grands champs. Cette méthode, elle est pas viable. Au contraire, les plantes, elles ont besoin de pousser en relation les unes avec les autres dans une très grande diversité. Elles se nourrissent, se protègent des nuisibles, se stimulent mutuellement. La coopération est la première puissance motivante de l'évolution. En permaculture, le sol est pas travaillé, pas du tout. Parce que lorsqu'on travaille un sol, on le brise, on perturbe la faune, les insectes qui font un travail de minéralisation et on contribue à son érosion. Et ce soir, j'aimerais vous parler d'un mode de permaculture en particulier qui s'appelle le jardin-forêt. Sous nos contrées, lorsqu'on laisse un champ ou une pelouse à l'abandon, ils essayent toujours de redevenir une forêt. On doit fournir un effort constant pour stopper cette évolution naturelle. Donc planter un jardin-forêt, c'est travailler avec l'inclination naturelle du sol plutôt que contre elle. Un jardin-forêt, c'est un potager naturel créé selon le modèle de la forêt. De la même façon que la forêt, il comporte, bon, pour simplifier, trois étages de végétation. Donc vous avez les arbres en haut, les arbustes à l'étage intermédiaire et les plantes herbacées à leurs pieds. Bah, dans ce type de jardin, ça donne des arbres fruitiers en haut, donc les amandes, les noix et tout. Des arbrisseaux à l'étage intermédiaire, donc les mûres, les framboises, ce type de plantes. Et des légumes, aromates et plantes médicinales au niveau du sol. Toutes ces plantes, elles vivent ensemble sur la même parcelle de terre, les uns au-dessus des autres. Ce type de potager, c'est une manière de jardiner à part entière. Elle produit une incroyable abondance de végétaux comestibles, sans travail, sans engrais ou pesticides. Le sol, il s'auto-fertilise, les insectes et les petits animaux, ils jouent tous un grand rôle. Et je vous propose de réfléchir à cette abondance. À l'heure actuelle, en pleine crise économique, on est enchaîné à un business alimentaire qui est gigantesque et il peut faire de nous ce qu'il veut. Pourtant, on n'y pense pas, mais en tant qu'habitant de la planète, la nourriture, elle devrait nous revenir de droit. On ne devrait pas avoir à payer autant pour se nourrir. C'est absurde. L'idéal de Gandhi, c'était la création de petites communautés autosuffisantes et démocratiquement organisées. Prendre soin des hommes et de la nature, créer de l'abondance et redistribuer les surplus. Le jardin-forêt, il permet une totale autosuffisance alimentaire, ainsi qu'une préservation de la vie. Si vous vous rappelez de Coaching Naéro numéro 14, émission que j'avais fait sur l'alimentation spécifique de l'homme, elle est très simple, elle est composée de fruits et de salades vertes en abondance, de légumes racines comme les pommes de terre et de noix. Donc l'autosuffisance, elle est possible. Et puis même, vous n'êtes pas obligé d'aller jusque-là, on peut très bien simplement s'autosuffire en fruits et légumes, c'est déjà pas mal pour ceux qui mangent de façon classique. En tout cas, notre système de production alimentaire actuel, il détruit nos terres. En plus, il est totalement dépendant du pétrole. La fabrication et utilisation de machines agricoles, d'engrais et autres produits chimiques, transport et transformation des aliments, commerce, aller-retour au supermarché. Il s'agit pas seulement du gaspillage, d'un gaspillage prodigieux de ressources limitées, mais c'est également une cause de réchauffement climatique. La principale cause de l'effet de serre, c'est l'augmentation du taux de CO2 dans l'atmosphère. Et une grande partie de ce CO2, il provient de l'agriculture ainsi que de la destruction des forêts du monde entier. On détruit ces forêts principalement pour y mettre de la culture intensive à destination des pays riches. D'ailleurs, c'est sans compter que beaucoup de ces cultures, elles sont faites au tiers-monde, sur des terres qui pourraient, enfin qui devraient nourrir les populations locales. Et qui ne le font pas, elles nourrissent les pays riches. Et il ne s'agit pas seulement de préserver la forêt, ça ne suffit pas. Il faut également replanter. Planter des arbres, c'est l'un des moyens d'éliminer le CO2 de l'atmosphère, puisqu'il est réabsorbé par le bois vivant. Dans ses recherches, Robert Hartz, il a souhaité développer un moyen de compenser la déforestation mondiale. Donc je le cite. Il serait urgent de replanter des millions d'arbres. Je me suis alors demandé pourquoi, parmi tous ces arbres dont nous avons désespérément besoin, on ne compterait pas de nombreux arbres fruitiers plantés par des propriétaires de jardins urbains qui profiteraient des fruits de leurs arbres. Si l'on parvenait à convaincre 100 000 personnes de planter ne serait-ce que 10 arbres fruitiers chacun, ça ferait 1 million d'arbres, une petite forêt. Et si des programmes de plantation d'arbres étaient mis en œuvre dans les zones urbaines du monde entier, une nouvelle forêt urbaine mondiale se développerait et commencerait à compenser la destruction des forêts vierges. Je rêve de millions de jardiniers urbains et périurbains transformés en mini-forêts. On pourrait espérer que les potagers remplacent l'agriculture comme première source de production alimentaire pour les populations urbaines. Cette création de jardins-forêts, elle fait partie du développement d'un nouveau mode de vie auquel doit parvenir l'homme s'il veut trouver des solutions aux problèmes colossaux de notre époque. Et le pouvoir de planter, il est entre vos mains. Si vous avez un jardin, même tout petit, vous pouvez créer l'abondance. Et même si vous avez juste un balcon, vous pouvez cultiver en bac des arbrisseaux avec des légumes à leurs pieds et contribuer avec vos mains à la guérison de la planète. Et elle a absolument besoin de vous. Vous êtes les acteurs principaux du futur vers un monde plus sain, plus équilibré, plus équitable. Rien n'est possible sans vous et tout vous est possible. Je vous remercie à tous de votre écoute. À bientôt.
Merci beaucoup Marion, qu'on retrouve bien évidemment la semaine prochaine pour une nouvelle rubrique coaching d'un héros et également dans le magazine Enquête Spirituelle que vous retrouvez tous les deux mois et qui est toujours en vente. Bien évidemment, le numéro 6 vient de sortir. On en dira plus tout à l'heure en fin d'émission. On se retrouve juste après une pause musicale avec notre invité de ce soir. Et ce soir, le sujet, ce sont les orbes.
Enquête spirituelle. Découvrez votre spiritualité.
Et on est parti pour cette deuxième partie de cette émission Enquête spirituelle ce soir avec notre invité Alexis Lambin. Tu vas bien ?
Très très bien. Vous m'entendez ?
Voilà. Maintenant,
c'est mieux comme ça. Hein. Oui.
C'est bon, le bouton ici en dessous.
Le temps de se familiariser avec le micro et c'est parti.
Alors, tu nous viens donc de Bruxelles ?
Exactement. Je suis là pour vous parler du phénomène des orbes. C'est un phénomène qui a démarré depuis l'apparition des appareils photo numériques. Mm-hmm. Et bien avant cela, mais ça, on va en reparler tout de suite.
Bien sûr. Et donc, comment tu as découvert tout ça ? Est-ce que tu as eu un parcours qui s'est intéressé au paranormal ? Parce que c'est du paranormal.
Depuis tout petit, effectivement, moi, je m'intéresse plus particulièrement à l'ufologie en général. Hein, donc, mm-hmm. Les ovnis, ça m'a toujours fasciné. J'ai eu la chance d'en voir 4 fois, en tout cas dans ma vie. Mm-hmm. Et quand j'y 4 fois, c'était loin d'être des avions.
Des petites lumières.
Loin d'être des ballons sondes, comme beaucoup mm-hmm. le prétendent encore maintenant, malheureusement. Donc j'en ai filmé au moins un sur les 4. C'est déjà pas mal. Parce qu'il faut avoir une caméra naturellement.
Ou un appareil photo, y penser aussi. Parce que des fois, on peut voir quelque chose et rester comme ça bouche bée.
En fait, on est encore une fois de plus. Il y a de Il y a plus d'ovnis qu'on ne le croit dans le ciel, si vous simplement enlever la tête, parce qu'on ne lève plus la tête de nos jours.
C'est vrai, ça.
On est toujours calé sur la rue. Bon, il faut dire qu'avec tous les fous qui roulent.
Vaut mieux regarder où on va, ça c'est sûr.
Il vaut mieux regarder, il ne faut pas le faire quand on traverse. Voilà. Donc le parcours, c'est très simple. Donc ça a commencé finalement avec ma compagne Anne-Marie, donc lors d'une fête à son boulot. Elle avait fait quelques photos de l'ambiance. Il y avait des danses mexicaines, enfin un petit peu de tout, un petit peu exotique. Et ensuite, donc on a visualisé ces photos en fin de journée. Tout simplement sur le PC pour un petit peu voir comment s'étaient passées les photos. Et donc les photos étaient particulièrement réussies en général. Et tout d'un coup, vers les toutes dernières photos, on aperçoit un gros machin, un gros disque, une grosse sphère lumineuse apparaître sur les cheveux d'une dame qui est en fait ado. En fait, hein. Donc on voit la femme de dos, et donc la sphère apparaît sur sa tête carrément, donc sur la chevelure. C'est assez énorme parce que le diamètre de cette sphère, si je pourrais la comparer en taille normale, je dirais que facilement par rapport à la taille d'un visage, elle ferait facilement 20 cm en diamètre. Donc on a commencé à zoomer, voir ce que c'était. D'abord on se dit, c'est une grosse poussière, je ne sais pas. On a commencé vraiment à se poser des questions et on a on a commencé à regarder sur les autres photos s'il y avait le même problème, et effectivement ils étaient déjà là, mais on a commencé à effectivement voir ces sphères. Alors
Ça se voyait déjà, sur un ordinateur. C'était pas une photo développée.
Non, du tout,
ça peut être différent. C'est un support numérique ou pas?
Tout à fait. Donc c'est un support tout à fait numérique, un appareil photo numérique, tout ce qu'il y a de plus classique. Et on a effectivement aperçu d'autres sphères apparaître pendant que les gens dansaient, etc. Mais avec une luminosité moindre, ce qui fait que celle qui nous a le plus attiré était effectivement cette grosse sphère bien lumineuse. Alors on a commencé à faire des recherches sur le moteur de recherche le plus connu,
sur internet.
On a commencé à faire des recherches, et puis on a tapé, on a écrit plutôt boule lumineuse sur photo, etc. Enfin bon, des termes très génériques. En fin de compte, on est tombé sur un tas de sites qui expliquaient ce phénomène, qui était appelé orb. Alors en anglais c'est orb sans e à la fin, donc c'est O-R-B, et en français on met un e. Bon, parce qu'on ne sait toujours pas si c'est féminin ou masculin, mais ouais. Qu'importe, de toute façon
ça se dit de la même façon.
Voilà, on s'en fiche pas mal. Donc finalement on découvre que ce phénomène est connu, ou plus ou moins connu en tout cas, et qu'il y a beaucoup d'orbes répertoriés, en tout cas pris sur des photos tout à fait amateurs, quoi. Donc naturellement on avait un petit peu de tout en description. On avait des gens qui commençaient à dire que c'était des esprits, il y en a d'autres qui décrivaient plutôt ces orbes comme étant des poussières, de vulgaires poussières, des gouttes d'eau, etc. Et donc moi, disons que je m'arrête jamais à quelque chose j'aime bien creuser, j'aime bien enquêter en général, et voilà, on a commencé à en faire de plus en plus. Alors quand je dis de plus en plus, c'est parce que c'est comme pour tout, dès qu'on se focalise sur un sujet, on le voit beaucoup plus. On s'attend fatalement à avoir des orbes, en tout cas dans les photos. C'est comme quelqu'un qui commence à chercher des ovnis et qui commence à en photographier de plus en plus. C'est pas spécialement que dans le paranormal, ça peut être aussi dans un tas de domaines. Ouais. Voilà, si on décide de photographier, je sais pas, un épervier ou n'importe, on va commencer à en avoir de plus en plus. Bon, c'est un exemple, ouais, tout à fait. Donc ici, effectivement, on a commencé à en faire de plus en plus. Alors de temps en temps, ça c'est très important, ça il faut absolument que les auditeurs prennent note de ces informations, entre guillemets, qui n'en est pas une si importante, mais c'est que les photos, il peut très bien y avoir des orbes, et puis la minute après, ou même la seconde après, il peut très bien ne pas y en avoir sur la photo. Au même endroit et à la même heure. Durant la même heure, il peut très bien ne plus y en avoir. Donc en fait, alors...
Ça ne se voit pas quand on fait la photo.
Alors, ça se voit grâce aux écrans numériques. Maintenant, actuellement, on peut effectivement voir directement si on en prend ou pas. Ce qui n'était pas le cas avec l'argentique. Hein, il fallait.
Ah oui, donc on peut le voir sur l'écran de l'appareil en tirant la photo.
Absolument. Donc,
c'est pas après, une fois que la photo est tirée.
Non. Alors, ça dépend de l'intensité même de la luminosité de l'orbe. Hein, donc, si jamais c'est faible, effectivement, parfois, vu la taille des petits écrans, on ne voit pas toujours ces orbes sur la photo, mais quand on développe et quand on fait un peu jouer les filtres photo avec un logiciel de photo ou de retouche photo, on peut tout à fait contraster ces images et à ce moment-là faire apparaître des choses qu'on n'avait pas vues, des choses qu'on n'avait pas vues avec l'écran. Donc, ce qui est intéressant, c'est effectivement de les voir plutôt sur un grand écran.
Oui.
Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il y a plusieurs luminosités, plusieurs couleurs, plusieurs formes. Ça, on va y revenir aussi.
Donc, ça n'est pas qu'un phénomène photo, dans le sens où on pourrait très bien les voir à l'œil nu ici dans la pièce. Tiens, il y a des orbes qui se baladent.
Alors,
on peut les prendre en photo.
Il y a des gens qui paraît-il les voient. Il y a des gens qui paraît-il les voient. Je crois qu'ils sont très rares. En tout cas, on a fait une expérience avec une personne qu'on connaît en France. Du site RDO, mais ça j'en reparlerai encore à la fin de l'émission. Et donc cette personne aperçoit les orbes à l'œil nu. Et on a fait l'expérience. On s'est dit tiens dans le fond, écoute, si jamais tu les vois, montre-en nous. Enfin, indique-nous où est-ce qu'il y en a. Et on fait les photos à ce moment-là. Et je dois dire que 2 résultats sur 3.
Il y en avait
là où ils regardaient, alors que c'est pas forcément vrai. Bon, il faut pas oublier que ces orbes se déplacent.
Ce que j'allais demander justement, le phénomène reste quelques secondes, quelques minutes.
C'est plutôt quelques secondes en général. Hein. Ils se déplacent. Alors comment est-ce qu'on sait qu'ils se déplacent sur une photo, vu que la photo reste figée? Bien, il y a des systèmes donc de caméra infrarouge. Donc on utilise un système de caméra infrarouge. Donc c'est une simple lampe infrarouge, une caméra qui a été modifiée, dont on a retiré le filtre qui filtre les infrarouges, et à ce moment-là, en général, on peut obtenir des résultats assez probants, donc des orbes qui effectivement apparaissent. Et alors à ce moment-là, on se dit, est-ce que c'est toujours des poussières ou pas? La question se pose, bien entendu. Il y a des gens qui ont fait des expériences avec des carpettes, qui ont commencé à secouer un tas de carpettes, de tissus pleins de poussière pour voir si ça faisait le même effet.
Le résultat,
c'est vrai que c'est pas mal non plus. On pourrait croire effectivement à des orbes. Il y a juste une chose, c'est que les poussières, généralement, vont toutes dans la même direction. Dans la direction dans laquelle la personne leur a donné. Donc si on secoue une carpette, ils vont tout simplement aller
dans la direction opposée.
Dans la direction opposée, par exemple. Et voilà. L'orbe, par contre, ou les orbes, alors ça, c'est très très impressionnant. Ils ont des mouvements, disons, vraiment très. Très réfléchi, vraiment réfléchi. Ouais.
C'est pas de l'aléatoire.
Alors, c'est pas de l'aléatoire. Alors, vous allez me dire, c'est peut-être un insecte. Une mouche en général ou une petite mite va commencer à chercher à batifoler à gauche à droite. Généralement, bon, ça se voit assez fort. On fait la différence quand même entre une mouche, une mite ou des choses comme ça. Surtout qu'on voit les ailes en plus. L'orbe, lui, par contre, peut très bien arriver, s'arrêter en plein milieu et repartir dans une autre direction et carrément faire un angle droit, quoi. Là, ça reprend un petit peu ce dont on parle dans le monde de l'ufologie, donc des ovnis.
Est-ce que ça a déjà été filmé?
Oui, complètement.
Donc, ce n'est pas que des photos non plus.
Alors, il n'y a pas que des photos. Les photos, donc, c'était les premières expériences qui ont été faites, si je puis dire, des expériences. Finalement, un petit peu de. C'est apparu un petit peu par hasard ou par non-hasard, en tout cas sur des photos dans les années 90, quand les appareils numériques ont proliféré. Et par contre, là je rajouterais aussi que ça ne date pas que des appareils numériques. On a effectivement découvert également, mais ça encore une fois, c'est quand on s'intéresse au sujet, ouais, on retombe sur des... Enfin, moi je demande aux auditeurs de reprendre leurs vieilles photos qui sont dans le grenier et de simplement de commencer à regarder, pour les personnes qui s'intéressent bien sûr au phénomène, et de regarder sur leurs vieilles photos s'ils ne trouvent pas effectivement des apparitions d'or. Et moi j'en ai déjà trouvé sur une ou deux photos, pas beaucoup effectivement, et aussi de très 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 vieilles photos qui datent d'il y a 100 ans, on trouve ce qu'on peut appeler des orbes. Alors est-ce que ce sont des gouttes de révélateur, est-ce que... Oui, ça peut, bien sûr. Il faut pas prendre toutes des vessies pour des lanternes, mais en général, l'orbe. Alors, l'orbe, comment est-ce qu'il se décrit? Puisque on a la radio. Alors, pour ceux qui connaissent pas, c'est plutôt bon sphérique. Ce qui est intéressant, c'est que bon, c'est lumineux. Il y a plusieurs intensités de luminosité. Il y a des couleurs différentes. En général, c'est blanc, c'est plutôt bleu, vert, ou alors jaune, rouge. Ça peut aller au rose aussi. Ça, on en a déjà pris quelques-uns en version rose, quoi. Donc, c'est intéressant. Il y a toutes les couleurs. Et alors, surtout, quand on fait un zoom, quand on agrandit l'image sur l'ordinateur ou même sur l'appareil photo, on s'aperçoit qu'il y a une espèce de membrane autour. Ça, c'est très intéressant. Alors, c'est pour ça que moi, je les compare un peu aux cellules. Quand on regarde une cellule, un ovule par exemple, bien on voit une membrane autour et celle-ci, comme toutes les cellules, peuvent se reproduire, en tout cas se détacher, en créer d'autres, etc. Les orbes, c'est un peu pareil. On a aussi observé des orbes qui se détachaient. On avait l'impression que de petits orbes se détachaient d'une sphère plus grande. Tout à fait comme les planètes, comme les étoiles. C'est assez intéressant. Ça, on ne sait toujours pas pourquoi. Pour l'instant, je ne veux pas décevoir, mais c'est vrai que les orbes, on ne sait pas exactement ce que c'est encore à l'heure actuelle. Et c'est ça qui est super, c'est qu'on puisse encore, de toute façon, continuer à investiguer là-dessus. Et
tant mieux.
Et j'espère qu'on trouvera quelque chose.
Eh bien, avant de creuser la question, justement, on se fait une petite pause musicale. On se retrouve dans quelques instants. À tout de suite.
Enquête spirituelle.
Enquête spirituelle. Découvrez tous les sujets pour ouvrir votre spiritualité. Faites-vous votre propre avis. Nous laissons la parole à nos invités.
Et notre invité de ce soir, c'est Alexis Lambin, qui est spécialiste, parce qu'on peut bien le dire, des orbes, parce que tu connais tout. Tu connais tout.
Non, justement, pas encore.
Je crois qu'on en apprend tous les jours. Il y avait une question émise sur le chat, et d'ailleurs, on peut rappeler aux gens, ceux qui veulent poser des questions ce soir, par tous les moyens de communication, il y en a plein.
Alors, on peut nous contacter par email, info@enquête-spirituelle.com. On peut nous contacter par téléphone, bien évidemment, 068 480 551 pour la Belgique, depuis la France avec le préfixe 00 32 68 480 551, et vous avez le chat en direct sur le site de la radio. Vous pouvez cliquer directement sur notre site, vous avez un lien donc vers la webcam et le chat, ou sur la radio maxfm.be. Sur la webcam, vous vous connectez et vous chattez avec nous directement et les autres auditeurs. Et donc là, on a reçu une question. Est-ce bon signe de voir les orbes sur les photos?
Alors, la réponse, de fait, je ne l'ai pas. Mais tout ce que je peux dire, c'est que oui, je dirais que c'est une bonne chose. Parce que si la personne qui en prend ressent en elle... C'est le plus important, c'est le ressenti, toujours. Moi, je ne peux pas vraiment dire pour la personne si ça lui va ou pas. C'est elle qui doit ressentir si cette photo, si l'orbe est pour elle un signe, en tout cas, et pourquoi pas, tout comme je l'ai fait avec ma femme, un début pour enquêter là-dessus, et pourquoi pas. Maintenant, y a des personnes qui disent que les orbes ne sont pas forcément positifs. Je pense pas qu'il faut se focaliser là-dessus, parce que de toute façon, il faut bien se dire une chose, c'est qu'il y en a partout. Je dis partout, c'est pas que des cimetières, c'est pas que des maisons hantées.
Ouais. C'est pas que dans des lieux sacrés ou des choses comme ça.
Non. Et d'ailleurs, surtout, là où ils apparaissent le plus souvent, c'est lors de concerts de musique.
Ah oui.
D'accord.
Ça, c'est important. Je sais pas pourquoi. Est-ce qu'il y a une vibration qui les attire? Et ça, c'est très intéressant.
La musique adoucit les mœurs.
Voilà, tout simplement. Et ça les adoucit peut-être aussi. Donc voilà. Donc pour ma part, c'est pas négatif.
Ok.
D'accord. Et on parle également donc sur le chat de voir des visages.
Tout à fait. Alors, effectivement, moi j'ai eu l'expérience d'une photographie donc d'un orbe avec un visage très net quand même, je veux dire. C'était à Templou, donc en Belgique, province de Namur. Templou qui est connu pour leur brocante, pour leur baptême en avion. Et surtout il y a eu beaucoup de guerres aussi. Donc la Seconde Guerre mondiale est passée par là aussi, comme partout. Et c'était lors effectivement d'une brocante. On avait fait une brocante, ma femme et moi. On était fort énervés parce qu'on n'avait rien vendu, il y avait beaucoup de monde. C'était en fin de journée, c'était en été, je pense, quelque chose comme en septembre, je sais plus, début septembre. Et donc on était fort fatigués et on était invités comme ça par hasard par des connaissances. D'amis à un barbecue, et donc on a cherché un peu leur endroit, etc. C'était assez long. On est tombé finalement dans la ferme, et donc là je sais pas, j'ai commencé à prendre, à mitrailler avec mon GSM. Alors bien sûr on peut prendre des orbes avec des appareils photo, mais on peut aussi les prendre avec des GSM dotés d'un flash si possible. Après on verra que c'est pas forcément en vrai. J'avais commencé à mitrailler donc avec mon GSM un peu partout le ciel, donc l'endroit où je me trouvais, et tout d'un coup, alors quelqu'un se trouvait à côté de moi, donc Olivier, bon il s'appelle Olivier, et puis je zoome sur l'orbe en question. Et il me dit, parce que ce type en fait, Olivier, me dit juste avant qu'il n'y croit, il n'y croit en rien. Il est super rationnel, super sceptique. Oh moi tous ces machins, parce que je lui expliquais un petit peu ce que c'était les orbes. Je ne voulais pas le diriger, j'étais simplement en train de dire que ça me paraissait quand même un petit peu paranormal. Tout ça il voulait pas entendre. Et je commence à zoomer sur la photo. Et là il crie, il me dit, mais il y a un visage Alexis, il y a un visage. Alors effectivement, je voulais pas y croire. Je regarde moi-même la photo, effectivement. Il y a un visage. Alors, pour ne pas, influencer les personnes qui étaient présentes, je me suis rapproché d'elles une à une et leur ai demandé ce qu'elles voyaient, ou si elles voyaient quelque chose, en tout cas. Déjà, la question peut porter à... On peut déjà manipuler quelqu'un en disant « Est-ce que tu vois quelque chose ?» Donc là, non.
L'intention était bonne.
Voilà. Ils m'ont tous dit qu'il y avait quelque chose, à part une ou deux personnes. Je vois rien de spécial. Mais ils étaient tous catégoriques. Il y avait un visage dans cette orbe. Alors, ce que j'ai fait, c'est que peu de temps après, je l'ai contrasté. Je l'ai traité en image avec un logiciel graphique de photo sur ordinateur. Quand j'ai dit traiter, c'est simplement le mettre en noir et blanc, puisqu'il, bon là il était en couleur en l'occurrence, il était bleu, un bleu vif d'ailleurs, avec une auréole jaune. D'ailleurs il y avait une auréole jaune autour de l'orbe. Et je l'ai donc passé en noir et blanc. Ensuite je l'ai contrasté pour qu'il le programme me débarrasse finalement des choses que je n'ai pas besoin, donc à savoir le fond. Le fond c'était la ferme, il faisait noir, donc c'était le soir. Et puis finalement le visage apparaît encore plus précis, je vais pas dire effrayant, mais enfin c'est limite la qualité d'une photo. J'exagère peut-être un petit peu. J'aurai peut-être l'occasion de vous la montrer à l'occasion, donc via le site. Et donc voilà. En général, les gens sont assez catégoriques quand ils voient cette photo. Ce sont des visages. On voit aussi d'autres visages moins précis sur d'autres photos, que ce soit sur les miennes ou les photos des internautes, ou en tout cas de ceux qui s'intéressent au sujet. Il y en a même qui disent voir des visages de chiens, d'animaux en tout cas. Souvent des chiens. Pourquoi pas? De toute façon, s'il y a un au-delà, je pense qu'il y en a un personnellement, s'il y a un au-delà, on est tous de toute façon amenés à passer
un jour.
En général du même côté, si je puis dire, je l'espère en tout cas. Et donc ces photos d'animaux ne m'étonnent pas beaucoup plus, quoi. Pourquoi pas? Donc,
voilà. Est-ce que ces visages sont des gens qu'on connaît ou des gens de l'entourage?
Non.
Des gens décédés, par exemple, qui viennent faire un clin d'œil comme ça.
Il y en a qui
doivent certainement dire aussi qu'ils ont vu Jésus ou compagnie, entre guillemets, sans se moquer de ces gens-là.
Mais bien entendu.
Des gens qui vont être un peu allumés à voir des choses comme ça. Quoi.
Comme partout, il y a un peu tout, bien sûr, c'est clair. J'ai eu une fois j'ai lu sur un forum un jour quelqu'un qui a cru voir son grand-père. Bon, naturellement, il n'avait pas de photo de son grand-père, donc on ne pouvait pas comparer si c'était vrai.
Mais c'est une possibilité.
Mais c'est une possibilité. De toute façon, la personne, encore une fois, c'est un ressenti. Si elle le ressent comme étant un message, ou en tout cas, si elle ressent que cette photo est bien un visage, il y a que le témoin qui peut, de toute façon, toujours ressentir si oui ou non c'était vrai ou si c'était simplement une pareidolie, donc comme on peut voir dans les nuages, il suffit de voir les nuages, on peut aussi voir maman, tata ou
il y a toujours une façon d'interpréter
donc il faut toujours un petit peu quand même rester prudent, mais ce qu'il y a de bien c'est justement de pouvoir parfois un peu s'évader, ça fait rêver quoi, même si de toute façon même si on n'y croit pas c'est pas important, c'est le but, c'est que ça fasse rêver au moins un instant.
Ouais,
on a besoin de rêves.
Est-ce qu'il y a une technique pour entre guillemets à coup sûr en avoir? Est-ce qu'il faut utiliser un appareil photo d'un certain type? Est-ce qu'il faut avec le flash comme tu
très
disais?
Très bonne question. Effectivement, donc il y a pas d'appareil spécifique pour ça. Il faut effectivement prendre un appareil de préférence numérique avec flash. Je dirais oui dans un premier temps, en tout cas pour commencer. On va mieux apercevoir les orbes en soirée parce que fatalement ils apparaîtront plus en contraste avec l'obscurité. On peut aussi en apercevoir en pleine journée aussi. Là effectivement en pleine journée, ils vont être plus faibles, donc on va moins les apercevoir. Ils vont être plus transparents. Ceci dit, j'ai déjà aussi capté, des orbes en pleine journée qui sont très lumineux. Et donc là, c'est très impressionnant parce qu'on se dit, il n'y a pas que le soir, il y a aussi la journée. Voilà. Donc pour la technique, pas vraiment de technique. Il faut avoir de la patience. Ça peut arriver à la première photo comme ça peut arriver à la dixième. J'ai vu des personnes qui n'arrivaient pas à en avoir. Alors là, c'est un peu bizarre, mais c'est pourtant vrai. Donc ce qui s'est passé c'est que cette personne voulait absolument en capter, elle a fini par en capter à la 15e je pense, c'était un orbe de petite taille, ça n'a pas l'importance, c'est pas parce qu'ils sont de petite taille qu'ils sont mauvais, et le plus important c'est de pouvoir en capter à un moment donné ou à un autre. Maintenant la technique, il y a des gens qui font simplement des photos comme ça à tire-larigot et puis qui en obtiennent finalement ou pas. Ce qui est très intéressant, c'est de pouvoir éviter, enfin ce qui est important plutôt je dirais, c'est d'éviter de faire des photos lors de jours de pluie ou de neige. Bon, alors tout ça pour dire que il vaut mieux éviter les artefacts disons naturels pour pouvoir apercevoir les orbes et non pas les flocons de neige ou les gouttes qui pourraient effectivement apparaître. De toute façon, une goutte qui tombe à pic généralement laisse une petite trace, ça se voit, alors l'appareil les fait apparaître comme étant lumineuses aussi ces petites gouttes, hein, parce que encore une fois il faut pas prendre toutes les vessies pour des lanternes. Et il vaut mieux prendre, si possible, donc une photo très important un jour où il fait sec, où il n'y a pas d'intempéries. Comme ça, on aura quand même plus le libre arbitre de dire, là au milieu il y a un orbe, ici il y en a d'autres, et il y avait absolument aucun phénomène naturel qui pourrait venir parasiter. Ça m'est déjà arrivé de prendre des photos en pleine pluie, en pleine neige, en pleine tempête de neige, et ça n'empêche pas que la photo, on voit très très bien la on sait très bien faire la différence entre des flocons de neige et des orbes. Pourquoi ? Parce que les flocons de neige, eux, apparaîtront très lumineux, avec éventuellement une petite auréole jaune autour, Et l'orbe, lui, quant à lui, est sphérique. À ce moment-là, il est bleu, il a une couleur, il a une texture aussi. Il a vraiment une texture. On a l'impression de voir... je sais pas moi, une peau de pomme assez ancienne, je sais pas comment expliquer. C'est, enfin, y a une texture dans cette orbe qu'on ne retrouve pas dans la neige justement. Et là, vraiment, les flocons, on peut vraiment faire la différence. Les gouttes, c'est pareil. Maintenant, je dis pas de temps en temps, il faut bien faire attention. De temps en temps, on peut très bien capter un orbe qui n'en est pas. Suffit de faire une photo. Bah, par exemple, si je vois qu'il y a des lumières halogènes, on pourrait très bien imaginer que dans une soirée quelqu'un fasse une photo, ne regarde pas la photo directement, et finalement disons observe la photo en rentrant chez elle et regarde, et par exemple montre qu'il y a un effet lumineux qui pourra peut-être lui sembler être un orbe ou un phénomène un peu paranormal, et qui finalement n'est que la lampe halogène qui était en plein dans le champ.
Il faut pas s'emballer.
Maintenant, ce qui est très intéressant, c'est que bah, la plupart du temps, oui, ici on pourrait très bien en avoir. Je parie qu'il y en a quelques-uns,
peut-être sur les photos qu'on fera ce soir.
Il y en aura sûrement quelques-unes,
tant mieux,
ça peut apparaître.
Voilà, on fait juste un sourire pour les photos. Voilà. Alors, on va prendre les photos avec la petite pause musicale, et c'est une pause que tu as ramenée. Alors, moi, j'ai choisi le titre qui s'appelle Communion.
Ok. Ouais.
Alors, c'est quoi ? Dis-le juste un petit peu plus là-dessus.
C'est Eric Clapton qui a composé ça pour le film Communion. Et le film Communion, c'est un film qui est sorti en 89 et qui parle des abductés, si je le dis bien, j'espère. Mm-hmm. En tout cas, des personnes qui sont enlevées par des extraterrestres. C'est un film qui était avec. Je ne me rappelle plus l'acteur, malheureusement. Je l'ai au bout de la langue, mais c'est pas très grave. Il n'y a qu'à tapoter sur Internet Communion, avec deux N, si je ne m'abuse. Et c'est un film qui est sorti en 89, qui est peu connu, et c'est dommage parce qu'il est...
Moi, je connaissais pas.
Il est bien foutu. Mmh. C'est pas un film de science-fiction, dans le sens qu'il y a du sang partout, des machins, comme on peut voir maintenant. C'est surtout un film qui parle de la psychologie, l'après. Enlèvement, si vous voulez. Donc en fait, okay. Voilà. Donc on peut confondre ça comme un rêve, on peut confondre ça comme quelque chose de vrai. Et bon, paraît-il que ça existe aussi.
Ah, on écoute ça tout de suite.
C'est gentil, merci.
Enquête spirituelle. Le podcast, rendez-vous sur notre site www.enquête-spirituelle.com.
De retour ce soir dans cette émission Enquête spirituelle avec notre invité Alexis. Et justement, tiens, une petite question. Toi, qu'est-ce que tu penses des orbes? Qu'est-ce que c'est, selon toi? Ton avis à toi? Parce que justement, on dit toujours, les gens ne savent pas trop, mais toi?
Voilà. Ouais, c'est une excellente question, Laurent. Pour ma part, ça dépasse quand même le niveau de la poussière et de la goutte. Je pense que, comme je disais là tout de suite, hors ligne, qu'il fallait de temps en temps un petit peu rêver, un petit peu de temps en temps s'évader, si je puis dire, pouvoir donner à son esprit une chance de pas se cabrer sur quelque chose. Donc, exactement comme les ovnis, encore une fois, ce n'est pas que des ballons sondes, on le sait depuis plus de 50 ans, seulement il y a encore beaucoup de gens, et ce n'est pas du tout de leur faute. Ça fait les trois quarts de la population, on croit encore que les ovnis ça n'existe pas, les extraterrestres c'est une fumisterie, et les orbes, bien, comme le sujet est plus ou moins récent, je veux dire une dizaine d'années, si je puis m'exprimer ainsi, à mon avis une dizaine d'années, où vraiment on commence à les étudier de manière un peu plus assidue. Moi je dirais que, en tout cas, vous savez, il y a une phrase très 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 connue qui est en alchimie, qui dit tout ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Je pense que les orbes, surtout la façon dont ils se déplacent lorsqu'on les observe à la caméra infrarouge, bien on peut tout simplement dire qu'il y a une intelligence derrière là-dessus. Maintenant, de dire que c'est des elfes, des anges, des défunts, je peux pas l'affirmer. Il y a personne qui le sait encore. Il y a bien un médium sur un site YouTube, pour le citer, qui Chris Alton. Il suffit de taper Constantine 9999, donc 4x9, donc Constantine 999. C'est un anglais et lui, il intervient avec les orbes. Il les fait apparaître en leur parlant, donc simplement en demandant qu'ils se présentent, et le pire c'est que ça marche.
Ah oui.
Donc il y a une interaction visiblement avec l'homme quand même. Hein. Maintenant, c'est un cas isolé. Je peux pas encore dire non plus. Les orbes, ils sont intelligents, ils nous parlent et compagnie. Donc on va peut-être pas exagérer là-dessus. Mais je pense qu'il y a une alchimie là derrière. En tout cas, il y a quelque chose qui est intelligent. Pour ma part, il y a une sorte d'intelligence. Il y a une vibration. De toute façon, tout vibre, hein. On le sait, les cordes vocales. Et vous savez que dans l'instrument, le violon, il y a une petite pièce qui s'appelle l'âme. C'est un petit cylindre qui fait la liaison entre les cordes et le caisson du violon. Donc c'est lui qui va dire si le violon va vibrer de telle manière ou pas. Et ça, c'est intéressant. Ils ont appelé ça l'âme. Donc c'est pourquoi pas. Mais tout est vibration. Je pense que en plus on peut observer également les orbes, surtout quand les observe à la caméra en infrarouge, ils pulsent. Donc c'est un petit peu comme des méduses, hein. Donc si vous voyez des méduses, quand elles se déplacent, elles font des contractions et donc ça pulse, et c'est pour ça que de temps en temps les photos, on obtient des orbes plus ou moins très lumineux ou plus ou moins plus faibles, parce que au moment où on a fait la photo, il devait sans doute certainement pulser d'une telle manière. Donc je sais pas si vous voyez un peu ce que je veux dire. Donc ce qui est très intéressant, c'est effectivement que les orbes disparaissent et apparaissent de nulle part. Donc sur un film également, on peut observer un orbe apparaître en plein milieu de la pièce et disparaître nulle part. Donc vraiment dans le vide. Est-ce que c'est leur énergie qui diminue? Est-ce que c'est pour ça qu'on les voit plus? Je ne sais pas. Est-ce qu'ils sont dans l'air? Est-ce qu'ils sont dans l'éther peut-être aussi? On parle du cinquième élément qui est l'éther. On ne sait pas non plus. Ce qui est intéressant aussi, je voulais surtout dire, Laurent, c'est que, alors je parle d'infrarouge, mais c'est pas toujours le cas. On peut également capter des orbes sans infrarouge, sans flash. Et ça, c'est très important. Là, je crois qu'il y a eu une évolution, à mon avis, durant ces dernières années-ci. Pas une évolution tellement au niveau machine, hein, on peut prendre des anciens appareils photo ou anciennes caméras. Mais il y a des films où l'on voit des orbes apparaître sans aucune, je veux dire, aucune lumière artificielle supplémentaire. Et ça, c'est très très impressionnant parce que vraiment là, on se dit que est-ce qu'on va les voir de plus en plus ? J'en sais rien, mais j'ai l'impression que oui. Et comme je vous disais là tout à l'heure, juste avant la pause musicale, il y a aussi des gens qui donc n'arrivent pas à les capter. Je comprends pas. Est-ce que c'est lié à la personne ? Ça, c'est une autre question aussi, en suspens bien entendu, qui serait intéressant de creuser quoi. Voilà, donc comme plein de choses. Les Asiatiques, dans la culture asiatique, par exemple au Japon, il y a beaucoup de légendes, des mythes. Donc on parle de yokai, c'est un terme générique pour parler de monstres, de choses étranges, de fantômes éventuellement aussi. Alors si je pourrais citer ne fût-ce que deux exemples, donc il y a les Alors, je m'excuse pour la prononciation, ouais. C'est des japonais, c'est les Hitodama. Hitodama, donc ça signifie l'âme humaine, et les Onibi, qui veulent dire les feux démoniaques. Et ça, c'est pas mal, parce que le feu démoniaque, bon, ça rappelle un peu la luminosité, on pourrait aussi éventuellement les assimiler aux fameuses boules de feu que l'on peut découvrir dans plein de témoignages, enfin dans plein de livres, il y a plein de témoignages qui parlent de ça, des boules de feu, c'est peut-être de l'orage en boule, j'en sais rien, de la foudre en boule, et en fait ces yokai, ces esprits sont décrits comme étant sphériques, blancs en général, bleu vert, avec un petit flagelle, une petite queue, avec lequel ils se déplacent en ondulant. Et ils sont luisants et éphémères. Alors moi, si ça fait pas penser à des orbes, je m'appelle plus Alexis.
Dans les cultures, c'est. Dans les Après, c'est un phénomène mondial. Et ça n'apparaît pas qu'en Belgique ou en France, forcément.
Alors tu posais une question tantôt, Laurent, très importante, c'est que tu me demandais si les gens pouvaient le voir à l'œil nu. Comme je disais, apparemment. Je connais une personne directe qui peut le faire, enfin en tout cas qui les voit. Il y en a d'autres qui peuvent les apercevoir, sont très rares. Mais effectivement, la question serait de se poser comment ces gens qui ont fait des peintures sur ces fantômes, parce que il y a une peinture qui est assez, enfin qui est pas connue spécialement, mais qui date du 18e siècle, et on voit exactement un esprit de forme sphérique partir d'une maison. Alors avec un petit flagelle, hein, donc vraiment qui se meut et qui sort de la fenêtre. C'est une peinture qui date du 18e siècle au Japon. Il y a Magritte aussi qui a fait une peinture qui s'appelle si je ne m'abuse, si je retrouve ma petite fiche, là j'ai un petit trou de mémoire, qui s'appelle on va retrouver ça. Alors, c'est
peinture de Magritte.
C'est une peinture.
C'est pas la pipe.
Non, ce n'est pas celui-là. C'est
plus connu. Hein.
Non, mais je vais la retrouver. Hein. Voilà, c'est l'au-delà, tout simplement, de 1938. Et c'est très intéressant parce que ça représente une pierre tombale et au-dessus il y a une petite sphère. Est-ce que c'est le soleil ou la lune ? J'en sais rien, mais cette petite sphère est intéressante.
Eh bien, merci Alexis, parce que l'émission touche à sa fin.
Oui, c'est dommage.
Choses à dire. Il y a un site internet, je crois, qui est en France, en Belgique, avoir plus d'informations.
Voilà. Donc, c'est un site qui a été lancé par Adama ou Jonathan, qui s'appelle le RDO France. C'est donc le réseau des orbes. Il y a aussi également le site en Belgique, simplement suffit de chercher, de taper RDO Belgique.
Voilà.
C'est un site que je co-administre, si vous voulez. Et c'est, pour ma part, le site le plus sérieux en matière d'orbe en francophonie. On y trouve des tas de photos, d'explications, toutes classées par région. Et alors, moi également, je voulais faire une toute petite publicité, je vais donc faire une conférence de plus ou moins 3 heures aux espaces Kogen à Bruxelles et à Uccle donc principalement. Mm-hmm. Là pour les réservations, il suffit simplement de passer par le site www.nulia.com. Alors Nulia c'est N comme Nathalie, 2 O L Y A. Donc nulia.com. Donc là il suffit de faire une petite
réservation. Et c'est quand cette conférence ?
Et ce sera donc le 9 novembre 2012, c'est aux alentours à 19, donc vers 19h, c'est un vendredi. Mm-hmm. Je m'excuse pour les personnes qui travaillent éventuellement, mais j'essaie d'un petit peu trouver
il y a toujours des gens intéressés.
Un jour et une heure spécifique. Et voilà, donc ce sera donc le 9 novembre, c'est sur nulia.com et c'est dans la rubrique ésotérisme et paranormal.
Eh bien voilà, comme ça la petite publicité est faite.
Et là on pourra parler plus longuement. Un petit peu plus longuement, mais donc vous êtes les bienvenus également. Hein.
Merci de l'invitation.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup à vous, merci.
Et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission Enquête spirituelle. La semaine prochaine sera quoi ?
Alors la semaine prochaine nous recevrons Philippe Rosmer, que nous avons reçu déjà plusieurs fois, et cette fois-ci ce sera sur le thème du Reiki.
Voilà, on n'avait pas encore développé le Reiki, voilà. Donc ça ce sera pour la semaine prochaine, et vous retrouvez le 9 novembre Alexis en conférence à Uccle. Donc plus d'infos sur nulia.com, voilà. On mettra le lien sur notre page Facebook et sur le site internet. On vous souhaite une excellente soirée, merci encore, et à la semaine prochaine.
À la semaine prochaine, bonne soirée.
À tous, au revoir, merci.